Chapitre 32. Nouveaux obstacles. Nguyen nous quitta pour reconduire les deux médecins à la grille du jardin. Nous étions seuls. Lucille ne pouvait manquer de s'apercevoir de l'absence d'Oscar, et au moment où elle commençait à s'en inquiéter et que je ne savais comment calmer ses appréhensions, nous fûmes interrompus par les cris du bébé qui partait du jardin. Je courus à la fenêtre et je regardai pour en chercher la cause. Ce n'était ni plus ni moins que Madame Finch qui, prenant tout son courage, avait enfin mis à exécution son projet d'interroger les deux médecins sur les yeux du bébé. Vêtue de sa jupe et d'un châle, son roman gisait de notre côté de la pelouse et son mouchoir de l'autre, elle poursuivait les deux médecins qui regagnaient leur voiture. Sacrifiant toute convenance, Herr Grosse avait pris ses jambes à son cou en se bouchant les oreilles. Il fuyait de toute la vitesse de ses petites jambes devant l'enfant qui hurlait. Nugent le précédait pour aller ouvrir la grille. Quant à M. Seabright, sa respectabilité de médecin le rendant incapable de courir, il protégeait la retraite. À chaque instant, Mme Finch, qui le suivait, lui tendait le bébé pour qu'il examinât. Mais M. Seabright se contentait de lever les mains poliment en semblant protester. Nguyen, qui riait à gorge déployée, ouvrit la grille à travers laquelle Herr Grosse disparut avec rapidité. M. Seabright suivit Herr Grosse. Madame Finch voulut suivre M. Seabright quand un nouveau personnage parut en scène. C'était M. Finch qui, troublé dans le silence de son sanctuaire, ou plutôt de son cabinet, s'avança d'un air d'importance dans le jardin et arrêta Madame Finch en demandant de sa grosse voix ce que signifiait cette scène inconvenante. La voiture partit et Nguyen ferma la grille. Quelques mots que je ne pus saisir furent échangés entre Nguyen et le recteur. Je supposai qu'ils avaient trait à la visite des deux médecins. Quelques moments après, M. Finch se détourna, offensé selon toute apparence par quelque chose qu'il lui avait dit, et s'adressant à Oscar, qui reparut sur la pelouse, attendant pour se montrer que la voiture fut partie. Le recteur lui prit le bras d'une manière toute paternelle, et, appelant sa femme, il lui offrit l'autre bras. Marchant majestueusement entre deux, M. Finch semblait affirmer son autorité, tantôt auprès d'Oscar, tantôt auprès de sa femme. Sa voix tonnante parvenait distinctement à mon oreille, accompagnée à faux par les faibles vagissements de l'enfant, fatigué de crier. C'est par ces paroles solennelles que commença le pape de Dymchurch. « Je tiens à ce que vous compreniez distinctement que je proteste toujours contre cette entreprise impie qui a pour but de rendre la vue à ma fille. Quant à vous, Madame Finch, si j'excuse, entendez-le bien, vos manières peu convenables en courant après deux médecins, c'est en considération de l'état de santé où vous vous trouvez actuellement. Après vos 9e couches, je me rappelle que vous êtes devenue nerveuse au point de ne pouvoir être responsable de vos actions. Pas un mot. Je vous dis qu'en ce moment même, vous êtes en proie à la même excitation nerveuse qui fait que vous n'êtes plus maîtresse de vos actions. Je dois vous déclarer, Oscar, que je refuse d'assister à toute discussion qui pourrait suivre la visite des deux médecins. Mais je ne me refuse pas à vous donner de bons conseils. Je mets opposition à tout ceci. « Faites comme moi. »«
Combien y a-t-il de temps que vous avez mangé, Madame Finch ?»«
2 heures. »«
En êtes-vous bien sûr ?»«
Très bien. Il vous faut un calmant. »« Je vous ordonne un bain chaud dans lequel vous resterez jusqu'à ce que je vienne vous trouver. »« Oscar, mon cher ami, vous manquez de poids moral. »« Tâchez de vous opposer résolument à tous ces projets, qu'ils viennent de ma fille ou de ceux qui la conseillent. » Projet qui amènerait de nouvelles dépenses de médecins. La température du bain, Madame Finch, doit être de 98 Fahrenheit et vous devez rester partiellement couché. Oui, Oscar, je vous autorise, si vous ne pouvez en venir à bout autrement, à faire valoir mon propre poids moral. Je vous donne liberté pleine et entière de dire « Je m'oppose à telle ou telle chose avec l'assentiment de M. Finch » et avec sa sanction pleine et entière. Madame Finch, je veux vous faire comprendre l'utilité de ce bain. Taisez-vous, c'est pour exercer une influence bénigne sur la peau. Une des domestiques devra, pendant que vous vous baignerez, avoir l'œil sur votre front. Sitôt qu'elle apercevra la moindre transpiration, elle devra venir me prévenir. Oscar, vous aurez l'obligeance de me faire savoir la décision qu'on adoptera là-haut, dans l'appartement de ma fille, après que vous aurez donné votre opinion et jeté mon poids moral dans la balance. Madame Finch, il faudra que vous ne soyez que légèrement vêtue après le bain, et je défends, pour empêcher le sang de se porter à la tête, toute compression autour de la taille, soit d'un lacet, soit d'un corset. C'est pour cela aussi que je vous défends les jarretières. Vous vous abstiendrez de prendre du thé ou de parler, et vous vous coucherez sur le dos sans vous couvrir. Vous !» Je perdis le reste de la phrase qu'adressait M. Finch à son épouse infortunée, et il disparut avec elle derrière la maison. Oscar resta à la porte de Lucille jusqu'à ce que Nugent vint le retrouver et rentrât avec lui dans le boudoir où nous les attendions tous deux. Quelques minutes après, les deux frères reparurent. Pendant tout le temps qu'avaient passé les médecins dans la maison, j'avais remarqué que Nugent s'était effacé, pour ainsi dire, avec une persistance scrupuleuse. Il paraissait vouloir se borner à la responsabilité déjà grave de faire examiner les yeux de Lucille par les médecins et de ne plus se mêler de l'affaire une fois qu'il aurait mis en train. Alors que nous nous trouvâmes réunis en petit comité pour discuter et peut-être combattre la résolution de Lucille, il s'abstint de nouveau de prendre la chose activement en main. « J'ai ramené Oscar, dit-il à Lucille, et je lui ai parlé de la différence d'opinion des deux médecins. Je lui ai aussi appris que ma fille était décidée à se ranger de l'avis le plus favorable, celui de Herr Grosse. Voilà tout ce que je lui ai dit. » Puis il s'arrêta et s'assit à l'écart dans le fond de la chambre. Lucille pria Oscar d'expliquer sa conduite. « Pourquoi vous êtes-vous tenu à l'écart ? » demanda-t-elle. « Et pourquoi, au moment le plus critique de mon existence, êtes-vous resté absent ?»« Parce que la cruelle anxiété que vous avez dû éprouver m'aurait trop fait souffrir, » lui dit Oscar. « Ne croyez pas que ce soit par indifférence pour vous, Lucille, que je me suis éloigné. Je n'aurais pu me contenir si j'étais resté. » Je trouvais cette réponse trop adroite pour être de son propre cru. Et puis, il jeta, en disant ces mots, un regard à son frère. Il semblait plus que probable que, dans le court intervalle qui s'était écoulé avant qu'ils reparussent dans le boudoir, Nugent lui avait conseillé cette réponse. Lucille reçut ses excuses de la meilleure grâce et avec la plus grande douceur. « Monsieur Seabright me dit que ma vue est complètement perdue et Herr Grosse m'assure, au contraire, que l'opération réussira. Inutile de vous dire auquel des deux je donne raison. » S'il n'avait dépendu que de moi, Herr Grosse m'aurait opéré avant même de repartir pour Londres. Il a refusé ? Oui. Pourquoi ? Lucille lui expliqua les raisons indiscutables de l'Allemand. Oscar écouta avec attention et regarda encore son frère avant de répondre. Je comprends, si vous vous décidez à courir le risque de l'opération dans peu de temps, que vous vous résigniez à subir une claustration de 6 semaines dans une chambre obscure et à vous mettre pendant 6 autres semaines entièrement entre les mains du docteur. Mais avez-vous bien réfléchi, Lucille, à ce qu'entraîne une pareille décision, c'est-à-dire à vous forcer de remettre le mariage à 3 mois au moins ? Si vous étiez à ma place, Oscar, vous ne permettriez qu'aucune considération entravât votre guérison. « Ne me demandez donc pas de réfléchir plus longtemps, Oscar. Je ne puis penser qu'au plaisir de vous voir quand j'aurai recouvré l'usage de mes yeux. » Cette déclaration, faite avec franchise et sans crainte, le réduisit au silence. Il était assis en face de la glace de manière à s'y voir. Le pauvre infortuné se leva et se retourna brusquement pour ne plus voir sa figure. Je regardai Nugent et je le surpris, essayant d'attirer l'œil de son frère. Poussé par lui, je n'en avais aucun doute, Oscar avait mis le doigt sur certaines difficultés de famille qui s'étaient présentées à mon esprit dès qu'on avait discuté pour la première fois la question de l'opération. Il devient nécessaire d'expliquer qu'un obstacle s'était présenté au mariage de Lucille, lequel avait été remis à cause de sa tante qui était tombée gravement malade. Mademoiselle Batchford, ayant été invitée comme de juste à assister à la cérémonie, avait, avec beaucoup de considération, prié de ne pas remettre la cérémonie à cause d'elle. Lucille avait cependant refusé de faire célébrer le mariage à un moment où celle qui avait été pour elle une seconde mère était en danger de mort. Le recteur, qui guettait l'argent de la riche Mademoiselle Batchford, pas pour lui-même, Mademoiselle Batchford le détestait cordialement, mais pour Lucille, avait approuvé la décision de sa fille et Oscar s'était vu forcé de s'y soumettre. Ces événements avaient eu lieu 3 semaines auparavant et nous venions de recevoir la nouvelle que la vieille tante de Lucille entrait en convalescence et qu'elle serait en état d'assister à la noce dans 15 jours. Les robes et le voile de la mariée étaient donc déjà préparés au presbytère. M. Finch se tenait tout prêt à officier quand cette opération survint à l'improviste et nous menaça de reculer encore l'époque du mariage de 3 mois au moins. Ajoutez à cela un nouveau sujet d'embarras. Qu'arriverait-il si Lucille persistait dans sa résolution et qu'Oscar continuât à lui cacher les effets du remède qu'il avait guéri? Si l'opération réussissait, Lucille découvrirait de ses propres yeux, avant le mariage, la manière dont on l'avait trompée. Comment accepterait-elle le désappointement qui pourrait s'ensuivre? Personne de nous ne pouvait le prévoir. Telle était notre position lorsque, après le départ des médecins, nous nous réunîmes en petit comité. N'ayant pu réussir à attirer l'attention de son frère, Nugent n'eut d'autre alternative que d'intervenir directement. « Permettez-moi de vous faire observer, Lucille, que c'est votre devoir de considérer tous les côtés de la question avant de prendre une décision définitive. D'abord, il est bien dur pour Oscar de reculer de nouveau le jour de son mariage. Secondement, Herr Grossen n'est pas infaillible, tout habile qu'il soit. Il n'est pas impossible que l'opération ne réussisse pas, et en ce cas, vous auriez reculé votre mariage de 3 mois en pure perte. Songez-y bien. En remettant l'opération après le mariage, vous conciliez les intérêts de tout le monde et vous ne retardez que 1 mois votre guérison. » Lucille secoua la tête avec impatience. « Si vous étiez aveugle, dit-elle, vous ne voudriez pas reculer de votre plein gré, ne fût-ce que 1 heure, le moment où la lumière vous serait rendue. Et vous me demandez d'y réfléchir? Pensez donc aux années que j'ai ainsi perdues. Pensez au bonheur suprême que je ressentirai quand je pourrai voir de mes propres yeux, au pied de l'autel, l'époux auquel je me donne pour la vie entière. Perdre 1 mois, autant me demander 1 mois de mon existence. C'est déjà souffrir 1000 tourments que de rester aveugle et de savoir qu'il y a, à 2 heures de chemin de fer d'ici, un homme qui peut me rendre la vue. Je vous le dis à tous franchement, je ne réponds pas de moi-même si vous continuez à vous opposer à mon projet. Si l'on n'écrit pas à Herr Grossen de revenir à Dymchurch avant la fin de la semaine, j'irai le retrouver à Londres. J'en suis maîtresse si je le veux. » Les deux frères se regardèrent. « N'avez-vous rien à dire, Madame Pratolungo ?» me demanda Nugent. Oscar était trop péniblement affecté pour parler. Il vint sans faire de bruit et, s'agenouillant près de moi, il porta ma main à ses lèvres d'un air suppliant. « Vous pouvez me considérer, si vous le voulez, comme une femme sans cœur. Peu m'importe. Les intérêts de Lucille et les miens étaient en commun. » J'avais résolu tout d'abord qu'elle ne serait pas mariée avant de savoir quel était celui des deux frères qui était défiguré. Mais, si elle le découvrait par elle-même en temps utile, elle m'épargnerait un devoir des plus pénibles et des plus désagréables et ne se marierait, comme je le désirais, qu'en pleine connaissance de cause. Les choses en étant là, ce n'était point mon affaire de me joindre aux deux frères pour faire revenir Lucille sur sa décision. Au contraire, je devais l'y affermir. « Je n'ai aucun droit d'intervenir ici, répondis-je. À la place de Lucille, après être restée aveugle depuis 21 ans, moi aussi, je sacrifierai tout pour recouvrer la vue. » Oscar se leva. Il était offensé de ce que j'avais dit et alla vers la fenêtre. La figure de Lucille s'éclaira. « Oh, dit-elle, vous, au moins, vous me comprenez. » Nguyen se leva à son tour, déçu dans une espérance qu'il nourrissait de voir la cérémonie s'accomplir avant l'opération. Le mariage dépendait maintenant des sentiments qu'éprouverait Lucille en apprenant la vérité. Je vis Nguyen aller vers la porte. Sa figure s'assombrit. « Madame Pratolungo, dit-il, vous pourrez un jour regretter votre résolution. Quant à vous, Lucille, faites comme bon vous semblera. Je n'ai rien de plus à vous dire. » Il quitta la salle avec une résignation calme qui allait bien à son caractère et qui contrastait favorablement avec l'indécision de son frère. Oscar, qui était à la fenêtre, se retourna avec l'idée sans doute de suivre Nugent. Mais dès le premier pas, il s'arrêta. Il y avait encore un effort à tenter et le poids moral de M. Finch à jeter dans la balance. « Avant que vous vous décidiez, Lucille, il y a encore une chose à prendre en considération. J'ai vu votre père qui m'a prié de vous déclarer qu'il s'opposait à l'expérience que vous allez tenter. » Lucille poussa un soupir de découragement. « Ce n'est pas la première fois que mon père montre peu de sympathie pour moi. J'en suis peinée, mais cela ne me surprend pas. « C'est vous qui me surprenez, dit-elle en élevant la voix, vous qui vous opposez à mon projet au moment où je me trouve sur le seuil d'une nouvelle existence. Grand Dieu, ne devrions-nous pas être d'accord dans une circonstance aussi solennelle? Le bonheur que j'éprouverai à vous voir de mes propres yeux ne compense-t-il pas votre attente, surtout quand je jure devant Dieu de vous aimer, de vous honorer et de vous obéir? Comprenez-vous sa conduite? Demanda-t-elle en se tournant vers moi. « Pourquoi s'oppose-t-il à mon dessein et ne montre-t-il pas un désir aussi vif que le mien de me voir recouvrer la vue ?» Je me tournai vers Oscar. N'était-ce pas le moment de tomber aux pieds de Lucille et de tout lui avouer ? Il avait là une occasion qui pouvait ne jamais se représenter. Je lui fis signe dans mon impatience d'en profiter. Je lui rends maintenant justice, il voulut se conformer à mon désir et s'avança vers elle. Mais il y eut un combat intérieur, et au lieu de tout avouer, il se contenta de dire « Ma conduite n'est pas sans motif, Lucille. » Mais là, il s'arrêta, la respiration lui manqua, et il reprit en balbutiant « Un motif que j'ai eu peur de vous avouer. » Puis il s'arrêta encore, tandis que la sueur coulait à grosses gouttes de son front sur son visage. Lucille perdit toute patience. « Quel est votre motif ? » dit-elle avec une certaine irritation. Le ton qu'elle prit acheva de briser la résolution d'Oscar. Il tourna la tête pour ne pas la regarder en face, et à ce moment décisif, le malheureux se rejeta sur une excuse banale. « C'est que je ne partage pas la confiance que vous avez dans Herr Grosso, » dit-il d'une voix faible. Lucille se leva avec un amer désappointement et ouvrit la porte qui conduisait à sa chambre. « Si c'était vous qui eussiez été aveugle, répondit-elle, je me serais empressée de partager vos espérances. Mais il paraît que j'ai trop attendu de votre amour pour moi. L'expérience vient avec le temps. Hélas, je m'en aperçois. » Elle passa dans sa chambre et referma la porte sur nous. Ne pouvant en supporter davantage, je me levai avec la ferme résolution de la suivre et de lui dire ce qu'Oscar aurait dû lui avouer lorsque je me sentis retenu par la main d'Oscar. Je me tournai et je le regardai en silence. « Non, dit-il en me regardant fixement et me tenant toujours par le bras. Si je ne lui dis pas la vérité moi-même, personne ne la lui dira. On ne doit pas la tromper plus longtemps, il faut qu'elle sache et elle le saura, lui répondis-je. « Lâchez-moi !»« Mais vous m'avez promis de ne pas dire un mot sans ma permission. Eh bien, je vous défends de parler. »« Voilà le cas que je fais de ma promesse, lui dis-je en lui faisant claquer au nez les doigts de la main qui était libre. Votre méprisable faiblesse met en danger non seulement son bonheur, mais le vôtre. » Je tournai la tête vers la porte et j'appelai Lucille. La main d'Oscar se serra sur mon bras, tandis qu'une expression mauvaise, et que je ne lui avais jamais vue encore, jaillit de ses yeux. « Eh bien, dites-lui la vérité, dit-il, en serrant les dents de colère, et je vous jette un démenti à la face. Si vous êtes poussé à bout, je le suis aussi, et je ne reculerai pas devant une bassesse. Je nierai tout ce que vous aurez dit, sur mon honneur et sous serment s'il le faut. Vous vous rappelez ce qu'elle vous a dit au sable, elle me croira avant vous. » Lucile ouvrit la porte et se montra sur le seuil en demandant d'une voix calme ce qu'il y avait. Un seul regard jeté sur Oscar m'avertit qu'il était résolu à mettre sa menace à exécution dans le cas où je persisterais à parler à Lucile. Un homme faible, quand il est poussé à bout, devient plus dangereux que l'autre parce qu'il perd alors tout scrupule et toute modération. Malgré ma colère, je reculai devant l'action honteuse que j'allais lui faire commettre en me montrant aussi obstiné que lui. Par pitié pour lui et pour Lucile, je cédai. « Je sortirai peut-être avant qu'il fasse nuit, » dis-je à Lucile, « et comme j'irai dans le village, je venais vous demander si vous aviez quelques commissions à me donner. » « Oui, me répondit-elle, si vous voulez bien attendre un peu, je vais vous confier une lettre pour la mettre à la poste. » Elle rentra dans sa chambre. Quand nous fûmes seuls, je me détournai d'Oscar sans dire un mot. Il fut le premier à rompre le silence. « Vous vous êtes souvenu de votre promesse, me dit-il, et vous avez bien fait. »« Je n'ai plus rien à vous dire, lui répondis-je, je m'en vais dans ma chambre. » Il me suivit d'un œil inquiet tandis que je regagnais la porte. « Je parlerai à Lucile quand il me plaira, » me dit-il d'un ton bourru. « Hélas, je ne suis pas toujours sensé. Une femme plus sage que moi ne se serait pas laissée aller dans son irritation à lui dire un mot de plus. « Quand vous voudrez, » répétai-je après lui avec tout le mépris dont j'étais capable. « Si vous ne lui dites pas la vérité avant le retour du médecin allemand, vous perdrez à tout jamais l'occasion de le faire. Herr Grosse ne vous a-t-il pas dit en termes clairs et nets que rien ne doit venir l'agiter ou lui causer du chagrin pendant plusieurs mois après l'opération? Cette tranquillité est une condition essentielle de guérison. Soyez tranquille, monsieur Dubourg, vous aurez bientôt une excuse pour garder le silence. » Le ton dont je prononçai ces paroles le piqua. « Épargnez-moi vos sarcasmes, femme sans cœur, s'écria-t-il avec fureur. « Votre estime m'importe peu. Lucile même et Nugent sait compatir à mon malheur. » Ma mauvaise humeur me fit trouver la réponse la plus cruelle que je pusse faire. « Ah, pauvre Lucile, m'écriai-je, quel heureux avenir elle aurait pu avoir. Quel malheur que ce ne soit pas votre frère qu'elle épouse au lieu de vous. » Il frémit à cette réponse comme si le scalpel avait pénétré dans ses chairs. Il laissa retomber sa tête sur sa poitrine. Il s'éloigna de moi comme un chien qu'on vient de battre et disparut silencieusement. À peine fus-je seul que ma colère s'abattit malgré moi. J'oubliai qu'il m'avait appelée femme sans cœur. Je regrettai ce que je venais de lui dire. Un instant après, je courus vers les escaliers pour essayer de le rattraper. Il était trop tard. Avant que j'eusse pu sortir de la maison, j'entendis la grille du jardin se fermer bruyamment. Deux fois je m'en approchai pour le suivre et deux fois je me retirai dans la crainte d'envenimer les choses. Je rentrai enfin dans le boudoir, fort mécontente de moi-même. Mon isolement fut heureusement interrompu, non pas par Lucile, mais par la vieille nourrice qui parut avec une lettre qui m'était adressée et qui venait d'être apportée au presbytère par le domestique des Sables. Je reconnus l'écriture d'Oscar, je rompis l'enveloppe et je lus ces mots. « Madame Pratolungo, comment pourrais-je exprimer toute la douleur et le chagrin que vous m'avez causé? Mes torts sont grands, je le sais, mais en vous demandant sincèrement pardon de ce que j'ai pu faire ou dire qui ait pu vous offenser, je ne puis me soumettre à l'arrêt cruel que vous avez prononcé contre moi. Si vous saviez combien j'adore Lucile, vous seriez moins sévère et vous me comprendriez mieux. Il me semble entendre encore vos paroles impitoyables et je ne puis vraiment vous revoir avant que vous m'en donniez l'explication par écrit. En me déclarant que Lucile serait plus heureuse en épousant mon frère, vous m'avez enfoncé un poignard dans le cœur. J'espère que vous n'avez pas voulu parler sérieusement. Veuillez m'écrire et me dire s'il en est ainsi. Oscar. » Lui écrire, quand nous étions à quelques minutes l'un de l'autre. N'était-il pas absurde de voir Oscar préférer une lettre à une entrevue amicale? Pourquoi ne venait-il pas me parler? Nous nous serions réconciliés bien plus promptement. Je résolus d'aller au sable et de me raccommoder avec ce pauvre enfant si faible et qui jugeait si mal les choses tout en étant plein de bonnes intentions. N'était-il pas monstrueux de ma part d'avoir attaché de l'importance à ce qu'Oscar m'avait dit alors qu'il était sous l'influence d'une terreur aussi grande? Le ton de sa lettre me causa un chagrin si profond que je lui en voulus de l'avoir écrite. C'était par une de ces soirées encore froides d'un mois de juin anglais. Un maigre feu brûlait dans la cheminée. Je froissai la lettre et je la jetai, ou je crus la jeter dans le foyer. Je découvris dans la suite qu'elle était tombée dans un coin de garde-feu. Puis je mis mon chapeau, et sans songer à la lettre qu'écrivait Lucile et que je devais porter à la poste, je courus bien vite au sable. Croiriez-vous qu'Oscar était enfermé dans sa chambre ? Une entrevue, seul moyen de s'expliquer avec une femme de mon caractère, effrayait tellement sa folle timidité qu'il s'était renfermé à clé et que je dus le menacer de forcer la porte pour qu'il m'ouvrît et me tendît la main. Une fois en face de lui, j'eus bientôt tout raccommodé. Je crois vraiment qu'il était à moitié fou lorsqu'il m'avait déclaré, à la porte de Lucile, qu'il me donnerait un démenti. Inutile de m'appesantir de ce qui eut lieu. J'eus des raisons sérieuses dans la suite pour regretter de n'avoir pas cédé à la prière d'Oscar, de ne m'être pas réconcilié avec lui par lettre au lieu de le faire verbalement. Si j'avais seulement reconnu par écrit mes torts envers lui, j'aurais pu m'épargner bien des chagrins ainsi qu'à ceux qui m'entouraient. Quoi qu'il en soit, la seule preuve qu'il me donna que j'avais regagné ma place dans son affection fut une cordiale poignée de main sur le seuil de la porte. « Avez-vous vu Nugent ?» me demanda-t-il en m'accompagnant à travers le jardin qui s'étendait devant la maison. Je lui répondis que j'avais pris un chemin qui aboutissait au jardin de derrière et que je n'avais pas passé à travers le village. Je lui demandai à mon tour si Nugent s'en était retourné au presbytère. « Oui, pour vous voir. Pourquoi »« Pourquoi ?»« Par pure amitié pour vous. Il voit les choses comme vous les voyez. » Il a ri quand il a su que je vous avais écrit et il s'est sauvé, ce bon frère, pour aller intercéder pour moi auprès de vous. Si vous étiez venu par le village, vous l'auriez rencontré. De retour au presbytère, je questionnai Zilla. Nugent, ne me trouvant pas, était monté m'attendre dans le boudoir. Mais ne me voyant pas revenir et fatigué d'attendre, il était parti. Je demandai ensuite où était Lucile. Zilla me dit que, quelques minutes après le départ de Nugent, elle avait quitté sa chambre en me faisant demander, et que, sur la réponse que je n'étais pas à la maison, elle avait envoyé Zilla mettre sa lettre à la poste et était rentrée dans sa chambre à coucher. Pendant que Zilla me donnait ces détails, je me tenais près du feu expirant, de manière à voir qu'il ne restait plus une parcelle de la lettre d'Oscar. J'en conclus naturellement qu'elle avait été consumée par les flammes. Étant entré dans la chambre de Lucile pour m'excuser auprès d'elle de n'avoir pas attendu sa lettre, je la trouvai bien fatiguée des divers événements de la journée et se préparant à se coucher. « Je ne m'étonne nullement, me dit-elle, que vous vous soyez fatiguée d'attendre. Je n'écris que bien lentement et péniblement. Mais il s'agissait ici d'une lettre qu'il était nécessaire d'écrire de ma propre main. Devinez à qui je l'ai adressée. À Herr Grosse. « C'est un fait accompli, ma chère. Je lui ai écrit. »« Déjà ? Pourquoi aurais-je attendu plus longtemps ? Toutes mes réflexions étaient faites. J'ai dit à Herr Grosse qu'à la suite d'une consultation, je me mettais entièrement à sa disposition pour tout le temps qu'il jugerait nécessaire. Et je l'avertis que s'il remet son départ pour Dymchurch, il me forcera à encourir le désagrément d'un voyage à Londres. » Je lui ai fait part de ma résolution à ce sujet, en termes non équivoques, soyez-en sûr. Il pourra, s'il tient parole, en recevant ma lettre dans l'après-midi, être ici après-demain. Oh, Lucile, ce n'est pas pour l'opération ? Si, c'est pour l'opération.